Aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir Nathalie Barche pour vous présenter cette édition du 12 novembre 2018. Madagascar, Hans Radzwell et Marc Ravalomanan en tête de la présidentielle selon des résultats partiels. Un gendarme blessé au Burkina Faso dans une nouvelle attaque dans le nord du pays. En Égypte, 65 djihadistes condamnés à des peines de prison dont 18 à perpétuité. États-Unis, 12 morts et de nombreux blessés dans une nouvelle fusillade en Californie. Hospitalisation de la doyenne progressiste de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg. Et la Minute Écho, les sports, ce sera juste après le journal. À Madagascar, deux anciens présidents sont au coude à coude après le premier tour de l'élection présidentielle. Selon des résultats partiels publiés par la commission électorale, le président sortant, qui arrive pour l'heure en troisième position, a dénoncé de nombreuses irrégularités et dit qu'il ne laisserait pas la population se faire dérober son vote. Le point avec Jacques Aristide.
Henri Rajoenar Mampian, qui a été au pouvoir de 2014 à septembre de cette année, affirme que des anomalies techniques ont été détectées. Il évoque notamment un fichier électoral non valide, la présence de bulletins déjà précochés, des retards dans la mise en place des équipements et des installations de vote, ou encore des intimidations. Tout porte à croire, dit-il, que le vote de la population malgache a été victime de ces détournements au lendemain du scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Le président sortant demande aux institutions compétentes de ne laisser passer aucune tentative de manipulation. D'après des résultats très partiels et provisoires, portant sur 291 des 24 852 bureaux de vote, R. Rajoenar Mampian a obtenu 3,29% des voix. Il arrive en troisième position, très loin derrière deux autres ex-présidents, André Rajoelina, crédité pour l'heure de 45,07%, et Marc Ravalomanan, 40,30%. Les trois hommes étaient donnés favoris du scrutin, destinés à consolider la démocratie dans ce pays, coutumier des crises politiques et post-électorales.
Nouvelle attaque au Burkina Faso, où un gendarme a été blessé dans l'attaque d'une brigade dans le nord du pays. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Des hommes armés ont attaqué tôt ce matin la gendarmerie de Namsigian à 135 km de Ouagadougou. L'attaque a duré une vingtaine de minutes avant d'être repoussée par les forces de sécurité. C'est une première en Namsigian, à 35 km de Djibo, dont la gendarmerie a déjà été attaquée à la mi-octobre. Lundi, deux militaires ont été tués et trois blessés à Nassumbu, toujours dans le nord, lorsque leur véhicule a sauté sur un engin artisanal. D'abord localisé dans le nord, les attaques se sont étendues à d'autres localités, surtout dans l'est du pays. Ouagadougou a été frappé à trois reprises, dont la dernière fois en mars. Ces attaques ont fait près de 60 morts rien que dans la capitale. Selon un bilan officiel, les attaques attribuées aux islamistes ont fait 118 morts ces trois dernières années, soit 70 civils et 48 membres des services de sécurité.
Le ministre burundais de l'Intérieur, Pascal Barandagié, a refusé d'agréer la nouvelle formation politique d'Agathon Rwasa en invoquant une violation de la loi dans une lettre adressée à l'opposant. Après analyse approfondie du dossier, nous avons constaté que les sigles, emblèmes et devises sont semblables à ceux d'un parti politique déjà agréé, peut-on lire dans cette correspondance. Il s'agit d'une allusion au parti issu de l'ex-rébellion Hutu des Forces Nationales de Libération, dont le chef historique Agathon Rwasa avait été évincé en 2011. L'opposant a créé en septembre son nouveau parti, le Front National pour la Liberté, dans la perspective des élections de 2020. Des sages du parti présidentiel gabonais ont appelé le gouvernement à communiquer judicieusement pour rassurer l'opinion sur l'état de santé du président Ali Bongo, hospitalisé depuis deux semaines en Arabie Saoudite. Dans un communiqué, le conseil consultatif des sages du PDG dit souhaiter éviter que se pérennise un climat délétère préjudiciable au pays. L'absence d'informations sur l'état de santé de Monsieur Bongo alimente les rumeurs depuis son hospitalisation à Riyad après un malaise selon la présidence. En Égypte, 65 djihadistes présumés ont été condamnés à des peines de prison, dont 18 à perpétuité. Ils étaient accusés d'avoir fondé une cellule qui a prêté allégeance au groupe État islamique. Le point avec Raïssa Girondin.
Les 65 accusés sont condamnés pour fondation d'une cellule terroriste en Haute-Égypte qui a prêté allégeance à Aboubakar el-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. 18 ont écopé de la prison à perpétuité, équivalent à 25 ans en Égypte. 41 personnes ont été condamnées à 15 ans de prison ferme. 6 mineurs ont écopé 5 ans d'emprisonnement. 2 personnes ont été acquittées. Le dirigeant de ce groupuscule, Mostafa Ahmed Abdelal, surnommé l'émir, et ses partisans ont été déférés devant la justice en mai 2017. Seuls 47 prévenus étaient présents à l'audience. Ces condamnations peuvent faire l'objet d'un appel. Ces procès de masse sont régulièrement dénoncés par les organisations de défense des droits de l'homme. En outre, hier mercredi, 8 membres présumés du groupe État islamique dans la province du Sinaï ont été condamnés à mort par un tribunal militaire pour une attaque meurtrière contre l'armée en 2016. En février, le Caire a lancé une vaste opération baptisée Sinaï 2018 pour les déloger. Plus de 450 djihadistes présumés et une trentaine de soldats ont été tués.
Le chef du gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, Fayez al-Sarraj, a appelé la communauté internationale à adopter une vision commune vis-à-vis du dossier libyen à l'occasion de la conférence qui s'ouvrira lundi à Palerme en Italie. Monsieur Sarraj déplore des interventions négatives de certains pays en Libye.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle fusillade ici aux États-Unis. 13 personnes dont l'assaillant ont trouvé la mort hier soir dans un bar bondé près de Los Angeles dans le sud de la Californie. Le point avec Abdourahman Dia.
Les autorités n'ont pas précisé à ce stade si l'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre ou s'il s'est suicidé. Le mobile du crime non plus n'est pas connu. Mais les médias américains révèlent qu'il a eu dans le passé des problèmes de santé mentale. Il y a également plusieurs blessés admis dans plusieurs hôpitaux de la région, a indiqué le shérif de ce comté à la périphérie de Los Angeles. C'est une scène horrible, il y a du sang partout, a-t-il confié. Dans un tweet ce matin, le président des États-Unis, Donald Trump, a dit avoir été tenu pleinement informé de la situation en Californie. La police a fait preuve d'un grand courage. Les unités de la police étaient sur place en 3 minutes, a-t-il ajouté. D'ailleurs, un policier a succombé suite à ses blessures. Il y a moins de 2 semaines, une autre fusillade aux États-Unis avait fait 11 morts dans une synagogue de Pittsburgh. Ces attaques relancent à chaque fois le débat sur les armes à feu dans le pays.
Les démocrates accusent le président américain Donald Trump d'avoir porté atteinte à l'indépendance du judiciaire et à la liberté de la presse en limogeant son ministre de la Justice et en retirant l'accréditation d'un journaliste critique. Les États-Unis sont au bord de la crise constitutionnelle, ont dénoncé plusieurs parlementaires choqués par le départ contraint de Jeff Sessions au lendemain des élections de mi-mandat. Fort de leur nouvelle majorité à la Chambre des représentants, certains démocrates ont brandi la menace d'une enquête parlementaire dès qu'ils prendront leurs fonctions en janvier. La doyenne de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg, 85 ans, a été hospitalisée suite à une chute dans son bureau hier soir. Ce matin, elle s'est présentée à l'hôpital George Washington. Le diagnostic est qu'elle a 3 côtes fracturées. Les démocrates redoutent une défaillance de Madame Ginsburg, auquel cas le président Donald Trump la remplacerait par un juge conservateur. L'armée syrienne a libéré tous les otages druzes enlevés fin juillet par les djihadistes dans la province de Souaïda, a indiqué l'agence Sana. Selon l'agence d'État, les forces gouvernementales ont affronté directement les combattants de ce groupe qui avait enlevé des femmes et des enfants et ont pu libérer tous les otages. Les forces pro-gouvernementales yéménites ont effectué une percée à l'intérieur de Hodeïda, cité portuaire contrôlée par les rebelles Houthis, où des combats meurtriers inquiètent les humanitaires. Après une semaine d'intenses combats aux abords de la ville, ces unités ont pénétré dans des zones résidentielles au volant de camionnettes sur certaines routes minées par les rebelles. Et la pakistanaise Asia Bibi, libérée de prison la nuit nuit dernière suite à son acquittement par la Cour suprême se trouve dans un endroit sécurisé au Pakistan, selon le ministère des Affaires étrangères. La famille de la chrétienne qui a été condamnée à mort a sollicité l'aide de plusieurs pays occidentaux pour les accueillir. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a déclaré sur Twitter l'attendre dès que possible avec son mari et sa famille à Bruxelles. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
En Côte d'Ivoire, le groupe agro-industriel français Satol annonce un investissement d'environ 33,5 milliards de francs CFA pour l'installation d'une zone industrielle consacrée au manioc à Assomvoué dans le centre du pays. Ce projet inclut la création d'une usine de transformation du manioc d'un coût de 15 milliards de francs CFA et devrait aussi permettre une commercialisation aisée des produits tels que la farine, l'amidon et le bioéthanol. Avec une production estimée à près de 38 000 tonnes de farine et d'amidon de manioc par an, Satol entend également créer 1 360 emplois. Au Cameroun, la crise anglophone fait chuter les exportations de bananes à 13 394 tonnes contre 43 400 tonnes en 2017, selon l'Association camerounaise de la banane. Des séparatistes ont multiplié les exactions dans les plantations de la Cameroon Development Corporation qui exploite des milliers d'hectares de bananeraies dans le sud-ouest anglophone. Au moins 12 sites de production sur 29 ont été fermés et 10 autres sites tournent au ralenti. Terminons avec la Tanzanie qui ambitionne de produire 50 000 tonnes de thé sur les 5 prochaines années, soit 47% de plus que son niveau actuel de 34 000 tonnes. Cette augmentation de la production devrait passer par une hausse de 30 000 hectares d'ici 2023. Le gouvernement tanzanien veut dynamiser le secteur du thé et accroître sa contribution à l'économie. D'après la Banque africaine de développement, l'agriculture génère 33% du produit intérieur brut et emploie 75% de la main-d'œuvre.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La CAF a levé le huis clos partiel de Rades.
Battu 3-1 par Al Ahly en finale allée de la Ligue africaine des champions, l'Espérance Tunis pourra compter sur le soutien de l'ensemble de ses supporters demain à Rades pour le match retour. La CAF a en effet répondu favorablement à la requête des Sang et Or qui réclamait la levée de la suspension frappant l'un de leurs virages pour cette rencontre. L'Espérance sportive de Tunis avait même menacé de boycotter le match en cas de réponse défavorable. Ce sont donc 60 000 supporters qui pousseront Youssef Belaïli et ses hommes.
Quatre nouveaux chez les éléphants de Côte d'Ivoire.
Oui, le sélectionneur Ibrahim Camara a fait confiance à Souleymane Doumbia, de Gracho Père de Zurich, cher Comara du Wydad Athletic Club de Casablanca, Eladj Danté de Lys de Sassandra et Yakou Meïté de Reading pour le match de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre la Guinée à Conakry. Le reste, c'est du classique avec les cadres Serge Aurier, Éric Bailly, Sylvain Bouhou, Séré Dier, Jean-Michel Séry ou encore Max Gradel. On note aussi le retour de Gbamin. Si le Sili National n'a besoin que d'un match nul pour assurer sa qualification, les éléphants doivent l'emporter pour valider dès ce mois leur ticket pour le Cameroun.
C'est la quatrième journée de la Ligue Europa ce soir.
Et oui, Arsenal et Chelsea peuvent se qualifier dès ce soir pour les 16e de finale en cas de succès respectivement contre le Sporting Portugal et le Bate Borisov. En revanche, Marseille, finaliste malheureux de la précédente édition, est au bord de l'élimination. Une défaite chez la Lazio Rome qui l'a corrigé 3-1 à l'aller au stade Vélodrome et ça n'est fini des rêves européens pour les hommes de Rudy Garcia. La Lazio sera qualifiée si elle bat Marseille et que l'Apollon Limassol, dans le même temps, ne bat pas Francfort.
Le PSG dénonce une initiative personnelle dans l'affaire du fichage ethnique.
Le club parisien a confirmé que des formulaires avec des contenus illégaux ont été utilisés entre 2013 et 2018 par la cellule de recrutement du centre de formation. Le PSG soutient toutefois que cela est une initiative personnelle du responsable du département de recrutement. Sous les catégories français, maghrébins, antillais ou africains, des recruteurs du PSG ont fiché ethniquement pendant des années des jeunes joueurs scrutés par le club sous un nouveau dossier des Foot Leaks relayé en France par Mediapart.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Après 25 ans d'exil, Cheikh Ibn Oumar, ancien chef de la diplomatie tchadienne passé à l'opposition armée, a regagné la légalité. C'est une conséquence de l'ordonnance du 31 mai portant amnistie générale des atteintes à l'intégrité de l'État signée par le président Idriss Déby. Les associations de défense des droits humains et l'opposition dénoncent une application sélective de cette amnistie. Notre correspondant N'Djamena André Kodmadjingar nous en dit plus.
Ancien cadre du Frelimo, Front de Libération Nationale du Tchad, le désormais ex-rebelle Cheikh Ibn Oumar fut nommé conseiller spécial du président Déby de 1990 à 1991 après la chute de l'ancien président tchadien Hissène Habré, puis ambassadeur du Tchad aux États-Unis et haut représentant du Tchad auprès des Nations Unies de 1992 à 1993. Et c'est à son dernier poste qu'il a basculé dans la rébellion où il a été très proche des mouvements politico-militaires qui ont tenté de renverser le régime au pouvoir. Cheikh Ibn Oumar se rend compte, après 20 ans de lutte armée, que l'exil politique est une anomalie.
La place normale de tout homme politique, c'est être au sein de sa société. Mais les circonstances, parfois, imposent ce genre de situation. Donc, pour moi, c'est juste un retour à la normale.
Aussitôt rentré, les autorités judiciaires lui ont délivré une réquisition aux fins de non-poursuite. Le ministre en charge de la sécurité publique, Ahmad Mohamed Bachir, lance un appel à tous les politico-militaires de déposer les armes.
Que tous les Tchadiens rentrent au bercail pour contribuer au développement de notre pays. Ça ne sert à rien de rester arme en main pour avoir quoi et pour être qui.
L'opposant historique du régime de N'Djamena, Yurongar Ngarledji, dénonce l'application sélective de l'amnistie générale accordée à tous ceux qui se sont rebellés contre les institutions de la République.
Actuellement, il y a des prisonniers qui sont amnistiés par cette ordonnance. Mais pourquoi ils sont restés encore en prison? Des centaines. Où est la sincérité là-dedans? Peut-être que Déby a changé et que les gens avec lesquels il négocie ne seront plus tués. Parce que Déby n'est pas un enfant de cœur. Et il n'oublie pas ce que Cheikh lui a fait subir, aussi bien sur le front de guerre que sur le plan politique.
Pour le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, par ailleurs avocat au barreau du Tchad, Maître Midaï Kirimbay, l'application sélective de cette amnistie prouve à suffisance que tous les Tchadiens ne sont pas égaux devant la loi.
Cheikh est rentré, mais je pense aussi à Baba Ladé qui est en prison. Tous les deux, théoriquement, devaient bénéficier de l'amnistie. Mais ce qu'il faut retenir, au Tchad, la loi n'est pas valable pour tout le monde. Et c'est cette injustice qui crée des rébellions, qui crée des révoltes. Donc moi, je ne suis pas étonné que M. Cheikh puisse bénéficier de l'amnistie et que d'autres qui ne sont pas de la bonne race puissent ne pas bénéficier de ces choses-là.
Nous avons tenté de savoir pourquoi les autres détenus politiques ne bénéficient pas de ce pardon légal du chef de l'État. Le ministre en charge de la sécurité publique, Ahmad Mohamed Bachir, a déclaré sans embâge que cette question est sans objet. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
On se retrouve au Niger où la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tillaberi, située à la frontière avec le Mali et le Burkina Faso, a été au centre des débats au Parlement. Un élu de cette région a interpellé le ministre en charge de la sécurité publique sur la question. Le point avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Le député Soumana Hassan a dressé pour s'en inquiéter un sombre tableau de la situation sécuritaire dans la région de Tillaberi. Meurtre, enlèvement de citoyens, destruction de biens ou encore vol de bétail. C'est à tout cela qu'est venu se greffer depuis quelques semaines une nouvelle forme d'action des groupes armés, le prélèvement de la zakat ou aumône légale auprès des populations, les éleveurs notamment.
Le mode opératoire des bandits consiste à intercepter les troupeaux de bétail en pleine brousse. Il communique aux éleveurs le montant de la zakat à prélever et intime au préfet le versement de cette zakat en espèces et ou en nature. Il va même jusqu'à délivrer des reçus. Le village de Goulbal, par exemple, a versé 700 000 francs. Le village de Sangara, 700 000 francs et 9 petits ruminants. Bosse Bangou, 400 000 francs. Kofuno, 600 000 francs. Zibanko Artegui, 90 000 francs et 5 vaches. Famale, 600 000 francs.
La situation inquiète aussi le gouvernement, selon le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé, pour répondre à la question des mesures prises pour y faire face, le déploiement de plusieurs opérations militaires pour juguler le phénomène et même l'insécurité de façon générale dans la région. Mohamed Bazoum.
Certaines des localités qu'il a citées sont des localités sur lesquelles nous n'avons pas eu les mêmes informations, mais pour la plupart, les localités de la région de l'Anzourou ont été affectées en effet par ce phénomène d'extorsion qui est justifié par cette idée de la zakat qu'il faut prélever sur les biens des paysans. Relativement à cette situation, nous avons pris des mesures et vous aurez constaté qu'il y a un mieux et que plus que cela. Ces agissements ont même cessé. Nous avons déployé des forces nombreuses, importantes, avec un impact conséquent, mais au même moment, l'état-major tactique basé à Toroudi, qui a en charge la situation à la frontière du Burkina, a déployé des forces importantes qui ont investi la forêt, tous les camps qu'il y a dedans, sont en train d'être nettoyés.
Récemment, au cours d'une réunion du G5 Sahel à Niamey, le chef d'état-major de l'armée nigérienne a affirmé que la zone frontalière entre les trois pays, Mali, Niger, Burkina Faso, est en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et criminels. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Morgane Guiriac en votre compagnie. Cette semaine, dans Washington Forum, les élections de mi-mandat ici aux États-Unis. Les Américains ont notamment voté pour renouveler une partie du Congrès. 35 postes de sénateurs et l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants étaient en jeu. Il devait aussi élire les gouverneurs de 36 États. Quelles vont être les conséquences de ce vote? Quel va être l'impact sur la politique du président Trump? On en discute ce jeudi à 19h, temps universel.
Une petite escale au Nigeria où la commission électorale publie les listes provisoires en prévision des élections de février 2019, comme le prévoit la loi électorale. Cette publication a notamment pour objectif d'apporter plus d'éclairage sur les électeurs inscrits. Notre correspondant Gilbert Tamba s'est rendu dans un bureau d'inscription pour s'enquérir de l'atmosphère sur place. On l'écoute.
Être inscrit sur la liste électorale est une condition incontournable pour pouvoir voter aux prochaines élections générales au Nigeria. Il est 10h au centre d'enrôlement des électeurs situé dans la zone 3 de la capitale fédérale, Abuja. Youssouf Dantala Mohamed est parmi les premiers à venir chercher son nom sur la liste. Il finit par le trouver et il vient de recevoir sa carte électorale.
J'ai vu mon nom et j'ai pris tous les détails. J'ai demandé à la personne au portail pour me montrer où je pouvais récupérer ma carte électorale. Il m'a dirigé vers un bureau et j'ai attendu l'arrivée du staff. Je me suis présenté avec les détails et ils m'ont remis ma carte. Je pourrai désormais exercer mon droit civique, celui d'aller voter en tant que Nigérian.
Il n'y avait pas d'engouement autour de cette opération puisque beaucoup d'électeurs ne sont pas encore informé. John Abou est aussi venu chercher son nom, un nom qu'il ne trouve pas sur la liste.
Je ne suis pas satisfait d'une telle situation. S'ils doivent faire un travail, ils doivent le faire avec rigueur pour éviter le stress aux gens parce que nous nous sommes inscrits ici, donc je ne vois pas la raison pour laquelle ils vont envoyer ça ailleurs. C'est une grande préoccupation pour moi et je ne suis pas content.
Du côté de la CENI, on annonce que des équipes seront déployées dans tout le pays et cette opération qui doit durer pendant une semaine aboutira à la publication des listes définitives des électeurs. L'affichage des listes d'électeurs permettra aux citoyens de faire des réclamations et des objections concernant des mineurs, des décès, des électeurs étrangers, entre autres, susceptibles de figurer sur le registre des électeurs. Aliou Beloué, le directeur adjoint de la communication de la Commission nationale électorale indépendante. Il explique ce qui est prévu pour ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale.
If such individuals happen to be Si ces gens font partie de ceux dont les noms ont été oubliés par erreur en consolidant la liste, une procédure est mise en place pour eux pour leur permettre de signaler l'absence de leur nom sur la liste. Un formulaire leur sera remis pour le remplir et à un moment opportun, la commission va revoir toutes les procédures.
Selon la commission électorale, plus de 80 millions de Nigériens en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales à travers le pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, une journaliste de télévision privée a été transférée à la prison de Newbel à Douala. Il est reproché à Mimi Mefo d'avoir publié une information attribuant à l'armée camerounaise la mort d'un missionnaire américain tué la semaine dernière dans la région anglophone du Nord-Ouest. Au micro de Raissa Girondin, maître Alice Nkom, assurant sa défense, estime que ce qu'on lui reproche ne relève pas du tribunal militaire. La voici.
Mimi, journaliste à la télévision Equinox, devait répondre à une convocation de la Légion de gendarmerie de Douala dans le quartier Bonanjo. Nous étions 8 avocats qui l'avons accompagnée à cette convocation.
Qu'est-ce qui lui est reproché?
Et là, qu'est-ce qui lui notifie comme infraction? Il lui dit, voilà, vous avez commis l'infraction de propagation de fausses nouvelles et de cybercriminalité parce que nous avons fait une capture d'écran, votre page Facebook, où il apparaît que vous disiez dans un de vos posts que c'est une balle de l'armée camerounaise qui a tué le missionnaire américain.
D'où provenait la source de l'information de Mimi Mefo?
Je crois que c'était une agence CNA.
Cameroon News Agency.
C'est ça.
Donc elle a repris cette information en ligne, qu'elle a ensuite relayée. Une fois relayée, ils ont fait une capture d'écran.
C'est à partir de là qu'on la convoque.
On l'a accusée donc de faire de la cybercriminalité. Donc comment on peut vraiment comprendre ces chefs d'inculpation?
Moi, je ne peux pas les comprendre parce que je suis un juriste. Quand j'analyse ça par rapport à la loi, même sur la cybercriminalité, que ce soit sur la propagation de fausses nouvelles, encore moins la sûreté de l'État, je ne vois aucun lien qui puisse conduire à une infraction, encore moins à une condamnation. Parce que, en ce qui concerne la propagation de fausses nouvelles, le libellé du texte vous donne quand même la possibilité de dire que vous aviez de bonnes raisons de croire à la véracité des faits, et c'est pour ça que vous avez partagé ça. Que serait Internet si on ne pouvait pas partager ces informations?
Il y a oui. Plusieurs journalistes qui ont été arrêtés. Est-ce que ces journalistes-là ont été arrêtés pour les mêmes chefs d'inculpation ou c'est autre chose?
Non, il y a des journalistes, c'est pour autre chose. On leur reprochera peut-être pas la cybercriminalité. On va leur reprocher d'avoir propagé des nouvelles parce que ce qu'ils ont dit n'était pas de nature à plaire à l'armée.
Voilà. Comment vous prévoyez maintenant la suite de l'affaire Mimi Mefo? Quelle est la suite de la procédure?
La procédure n'est pas respectée. Les lois ne sont pas respectées et la partie en face a l'air de pouvoir se comporter comme au-dessus des lois. Parce que si on suit les lois de la République, Mimi ne doit jamais se retrouver devant un tribunal militaire pour ces faits-là. Parce que, un, il est interdit aux tribunaux militaires de juger les civils. C'est interdit. Ce n'est pas de leur compétence. Ça ne se retrouve même pas dans le texte, les dispositions du code de justice militaire. Donc déjà ça, c'est extrêmement important et ça donne à tout le reste du procès un goût amer d'arbitraire et d'injustice et d'illégalité, de violation des droits. Nous pensons bien qu'au cours d'un procès juste et équitable, on va démontrer son innocence.
C'était Maître Alice Nkom, jointe à Douala. C'est la fin de cette émission. À la mise en onde, c'était Sims Loumami, à la console Thomas Blondet, à la présentation Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée en compagnie de Henri Francisque pour un rappel des grands titres de l'actualité dans le monde.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui.
diffusée partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique,